René Descartes, 1596-1650. Descartes est le plus célèbre des philosophes français. Pourtant, la tradition l'a souvent réduit au rationalisme un peu rigide du trop fameux esprit cartésien. C'est là passer un peu vite sur la complexité d'une philosophie qui inaugure et nourrit toute la pensée moderne. René Descartes est né en 1596 à La Haye, en Touraine. À 10 ans, il entre au Collège royal de La Flèche, dirigé par des jésuites, où ses dons et sa santé fragile lui valent un traitement de faveur. Ainsi, le jeune René a la permission de se lever tard et de travailler au lit, habitude qu'il cultivera toute sa vie. Le discours de la méthode, dont la première partie relate ses années d'études, en retient surtout l'incertitude des connaissances acquises alors, et le rêve d'une science absolument sûre. En 1618, il s'engage dans diverses expéditions guerrières qui le conduisent en Hollande, au Danemark et en Allemagne. Même lorsque sa vocation intellectuelle se précise et le ramène à Paris en 1622, il y mène une vie aussi mondaine qu'intellectuelle. Il fréquente salons et savants, et son talent s'illustre dans le duel galant, comme il brille dans la discussion philosophique. Toutefois, en 1629, il décide de se retirer en Hollande pour se consacrer à son œuvre. Son célèbre discours paraît en 1637. L'accueil qui lui est réservé plonge son auteur au cœur de polémiques épistolaires intenses, caractéristiques de l'Europe savante du XVIIe siècle. Suit une période féconde. Descartes publie, non sans se heurter à la censure, les méditations sur la philosophie première, les principes de la philosophie et enfin les passions de l'âme, traité largement inspiré par sa correspondance avec la princesse Élisabeth, exilée en Suède. En 1649, sur l'invitation de la reine Christine de Suède, il se rend à Stockholm, où il meurt l'année suivante, victime d'un climat trop froid pour sa constitution délicate. Trois exigences dirigent l'œuvre cartésienne. Substituer à la science obscure du Moyen-Âge une physique aussi sûre que la mathématique. En tirer des applications pratiques et morales capables de rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature, et maître de ses passions. Enfin, situer cette science de la nature par rapport à Dieu pour mettre fin au conflit de la raison et de la foi. Sa méthode n'est pas tant un corps d'affirmation ou de démonstration qu'une série de moments intellectuels qui s'engendrent successivement. Le premier pas de cet itinéraire consiste à rompre une fois pour toutes avec l'ensemble de nos croyances, connaissances acquises sous l'égide d'une autorité autre que celle de notre esprit seul, qu'il s'agisse de nos sens ou de nos précepteurs. La méthode pour y parvenir est le doute, qui, radicalisé grâce à l'hypothèse extrême d'un malin génie, trompeur en toute chose, suspend notre adhésion aux plus fortes évidences, comme celle de l'existence de notre corps et du monde, ou encore celle des vérités mathématiques. Cette épreuve aboutit à la découverte de la seule vérité indubitable, celle du cogito, c'est-à-dire du moi pensant. Car en doutant, j'exerce une activité de pensée que le doute ne peut récuser. Douter, c'est penser, et par conséquent affirmer la certitude de l'existence. Tant qu'il m'est possible de penser, je peux dire que je suis et que j'existe. Aussi le cogito cartésien propose-t-il le modèle d'une certitude sans faille, d'une connaissance absolument certaine, dont l'objet le plus évident est précisément la pensée, que Descartes définit comme étant plus aisément connaissable que le corps. De cela résulte un dualisme entre l'âme et le corps, entre pensée et étendue. La fiction du malin génie et la mise en doute de l'existence de ce qui m'entoure ne sont alors plus utiles. La connaissance des corps est rétablie, non plus comme saisie confuse et empirique d'un amas de qualités sensibles, mais comme détermination rationnelle de l'étendue. Le dualisme ontologique est la traduction philosophique des débuts de la science moderne qui cherche à appréhender tous les corps sur le modèle de l'étendue et à mathématiser la physique. En revanche, l'union de l'âme et du corps en l'homme, différente d'une simple juxtaposition des deux substances, est une notion limite. Pour la comprendre, Descartes détermine un lieu qui, dans le cerveau, unifie ces deux substances, la glande pinéale, et qui permet la conciliation de la dimension physique et métaphysique de sa philosophie. Mais notre corps est un fait dont la raison ne peut rendre compte intégralement. Il s'agit désormais d'éduquer notre nature mixte afin d'instaurer et de garantir une correspondance entre l'âme et le corps. Ainsi Descartes rapproche-t-il la morale de la médecine afin d'établir la liste des principes nous permettant de faire cohabiter harmonieusement l'âme et le corps, eux qui sont par nature soumis aux aléas de l'existence.